8h20. On va aller voir si Louis Deschênes est là. Salut, Louis.
Oui, salut, Daniel.
Bon, ben, coudonc, ça a fonctionné du premier coup. Le premier surprise, c'est moi. Louis, tu veux revenir sur le dossier du prolongement de l'AVE?
Oui, exactement. Écoute, j'ai en fin de semaine, il y avait un article dans le Journal de Québec là-dessus, un article qui a été publié samedi. Bon, l'objectif de ça, c'est qu'il y avait la fameuse rencontre samedi là des opposants. Oui. Et c'est quand même incroyable de voir comment le sujet fait encore réagir. Mais écoute, je reviendrai pas là-dessus parce qu'on en a parlé quand même pas mal la semaine dernière, mais j'ai quand même eu quelques réponses là, concernant le ministère des Transports pour nous dire on en est où, en quelque sorte, avec le prolongement de l'AVE, parce que ça a été réinscrit, on le sait, là, au fameux PQI. Alors, c'est sûr qu'on a avancé un peu, mais je vous avertis tout de suite, là, c'est pas, on n'a pas avancé tant que ça. Une des choses qu'on a mentionnées, bon, premièrement, on est à finaliser la conception du... Bon, on finalise la conception du tronçon entre Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles. Ce qu'on dit, pour ça, il faut compléter les études nécessaires en vue de déterminer le meilleur scénario. Donc, on n'aurait pas encore le meilleur scénario.
Ouais.
On dit qu'actuellement, le ministère dresse le portrait des études réalisées qui étaient en cours parce que il y avait eu des études pour ce qui est du tronçon là, jusqu'à entre Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles. Il y avait eu déjà des études. Donc, le ministère s'affaire à valider s'il y a des changements pour les normes, les lois, les règlements. Tout ce genre de patente-là. Mm-hmm. Puis ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'à ce jour-là, on n'est toujours pas capable de donner des coûts, préciser les coûts, et on n'est pas capable de donner d'échéanciers encore.
Ouais.
Donc, on est quand même très, très, très loin. Puis là, on a juste parlé de la portion Notre-Dame-des-Neiges, Trois-Pistoles. Remarque que là, tu as le pont aussi ou tu as la rivière.
Ouais.
C'est sûr que ça, c'est assez compliqué. Daniel, je finis là-dessus, puis... Regarde, on pourra commenter après.
Ouais, ouais.
Pour la portion entre Trois-Pistoles et Rimouski, le ministère doit mettre à jour l'étude d'opportunité et faire le point sur les études qui ont été réalisées antérieurement et celles qui doivent être actualisées. Donc ça, ça vient toujours du ministère des Transports, là. Parmi les études initiées jusqu'ici, il y a la raison d'être du projet, l'étude des corridors, l'étude économique, l'étude des impacts visuels sur le paysage. Différentes options de corridors avaient été ciblées avant 2015. Toutefois, tu sais qu'il y avait eu trois, les fameux... T'as sûrement... Écoute, je sais pas si tu te rappelles, t'as sûrement déjà vu ça, là. Les fameux... Le fameux petit dessin, là, où on voyait les trois tronçons. On avait trois tronçons différents qui partaient dans le fond, du futur pont à Trois-Pistoles, là,
ouais,
jusqu'au BIC.
Ouais.
Mais ça, là, on nous dit, on est en train de nous dire, là, la nouvelle réponse du ministère, c'est une réévaluation des scénarios est nécessaire. Donc, tu sais, quand on dit, oui, les études, il y a des études qui avaient été faites, les tronçons, là, on est en train de nous dire qu'on recommence à neuf, là.
Oui, 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 oui. Louis, je sais pas dans ta recherche, parce que moi, de mémoire, là, j'ai aucune année à mettre là-dessus, mais est-ce que tu as pu retrouver quand est-ce qu'on l'a retiré du PQI, le prolongement de l'AVE?
2015.
Oui,
c'est okay. Déjà 2015, donc... C'est le moment du retrait.
Donc, on l'a retiré en 2015. Probablement qu'on avait déjà commencé à, comment je dirais bien ça, donc, ralentir le processus avant 2015. Tu sais, ça m'étonnerait qu'on, comme on dit en bon québécois, qu'on aurait été à côté d'embarrure jusqu'en 2015, puis un bon matin, on dit, paf, on arrête ça là, puis on n'en parle plus, on le retire. Là où je veux en venir avec ça, c'est que on est en 2023. Mettons que ça fait 10 ans qu'on n'a pas touché à ça, peut-être un peu plus si on était capable de le valider. Il y a sûrement des données qui ont changé. Je te dis pas qu'ils ont changé du tout au tout, mais je vais te donner un exemple. Au niveau des lois en environnement, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis ce temps-là? J'imagine que sur 10 ans, il y a probablement que ce soit de l'exploitation d'érablières, de l'exploitation de fermes, de l'exploitation de je sais pas quoi, moi, qui a évolué ou régressé à l'intérieur de ces 10 ans-là. Donc, personnellement, moi, je pense qu'il y a des aspects qui étaient valides en 2015, qui aujourd'hui, effectivement, ont besoin d'être réévaluées.
Mais je suis content, Daniel, parce que c'est exactement pourquoi je t'en parlais ce matin.
Ouais.
Dans le fond, c'est que ce que le ministère des Transports est venu nous dire dans sa nouvelle réponse, parce que c'est pas la première fois qu'on pose des questions, mais c'était comme un peu une mise à jour, moi, que je voulais avoir, justement en lien avec le fait que, bon, les opposants ont repris un peu le flambeau, là. Donc, c'était où on en est rendu, considérant justement que oui, il y a déjà des études qui ont été faites, mais aussi considérant, comme tu dis, que ça fait probablement au moins 10 ans, ouais, et même plus, ouais, là, parce que on l'a retiré en 2015. Les études n'ont pas été faites en 2015, la veille, là, ça a été fait avant. Mm-hmm. Donc, la conclusion dans tout ça, c'est que, puis pour exactement les raisons que tu as données, c'est qu'il va falloir refaire un paquet d'études,
ouais,
parce qu'il y a des nouvelles lois, nouvelles normes, il y a des nouvelles... Tu sais, la vie est nouvelle, là, 10-15 ans plus tard, c'est sûr.
C'est ça.
Alors, c'est pas pour demain matin non plus. Là,
ouais, OK. Ambulance Saint-Jean-Port-Joli.
Ça, Daniel, c'est quand même bon, parce que tu vas te souvenir, ben, il n'y a pas si longtemps, là, c'était dans le... sur les limites du Témiscouata et de Rimouski, bon, on avait parlé de l'ambulance, bon, qui est arrivée en retard. C'est pas nécessairement le même sujet, mais ça va revenir un peu avec les mêmes commentaires. Saint-Jean-Port-Joli, enfin, la semaine passée, puis ça a sorti dans les médias, là, hier, il y a une, tu sais, bon, il y a une dame qui, dans le fond, se plaint parce que l'ambulance n'était pas capable de descendre la côte qui mène à sa maison. Et l'ambulancier a dit, écoute, je peux pas descendre là, je remonterai pas. En gros, c'est ça l'histoire. Mais quand je te dis que c'est fait que, bon, c'était pour un enfant qui était malade, fait que ce qu'ils ont fait, eux autres, ils ont comme un Subaru 4x4. Fait que ce qui est arrivé, je parle de la famille. Fait que là, l'ambulancier est descendu à pied. Il est allé pour les premiers soins rapides de l'enfant. Puis quand ils ont vu que c'était, tu sais, qu'on pouvait le déplacer, ben, on l'a mis dans l'auto 4x4, puis on l'a remonté à l'ambulance.
Ouais,
je veux dire,
c'est quand... ouais.
Où je veux en venir là-dedans, puis je t'ai déjà entendu là-dessus, puis écoute, c'est comme un hasard que tu sois là un peu ce matin aussi. Tu sais qu'à un moment donné, là, moi, j'ai resté dans le fin fond là, du lac Beauport. On t'avait une maudite belle vue, mais l'hiver, là, quand on voulait monter, là, fallait se donner un élan, là. Puis fallait pas qu'il y ait l'auto qui descende, ouais, sans ça, t'as pas capable, ouais, de monter.
Mais tu te souviens-tu, Louis? Ah oui, tu vas te souvenir de ça. T'étais là, je suis certain, à ce moment-là. Le transporteur de lait qui voulait plus passer dans le rang parce que le rang était trop magané, mais j'arrive pas à me souvenir, c'était où?
Ben, je me souviens pas c'est où, mais oui, on a déjà parlé d'histoires comme ça. Mais à un moment donné, Daniel, quand tu fais le choix d'une résidence, là, faut quand même que tu prennes en considération un paquet de choses, là. En fin de semaine, j'étais à Biencourt. On est allé en ski en fin de semaine. C'était notre fin de semaine où on va à Biencourt avec le petit chalet. Écoute, c'est magnifique. Mais c'est certain que si demain matin, je voyais qu'il y avait une petite maison à vendre, là, sur le bord du lac, là, je me disais, si demain matin, moi, je décide que j'achète cette maison-là, faut pas que je pense que si je fais une crise de cœur, j'appelle l'ambulance, elle arrive 10 minutes après, là.
Ouais.
Tu sais? Oh non, c'est ça, tu sais, à un moment donné. Puis, je reviens à mon exemple, moi, quand j'étais jeune, c'est ça. Puis, l'ambulance, là, pour vrai, on avait un petit plan de match. Ou, coudon, si quelqu'un était malade, là, c'est certain,
c'est ça,
qu'on allait le porter, là, un moment où, tu sais, on se trouvait un endroit un peu plus safe pour aller rejoindre l'ambulance, en quelque sorte. Tu sais, c'est le fun, la villégiature. Eux autres, comme à Saint-Jean, là, ils ont de l'air d'être sur le bord du fleuve. Tu sais, dans une belle place, tu sais, comme j'ai dit, dans notre coin de région, là, au KRTB, il y en a un paquet d'endroits où c'est magnifique, mais pour ça, souvent,
ouais,
faut que tu t'éloignes, faut que tu assumes
la part de risque.
Oui, puis quand tu choisis une maison, là, tu sais, moi, ma première maison, c'était dans la côte Tachée à Rivière-du-Loup.
Ouais.
Elle était belle, on l'aimait, ça allait bien, tout ça. On était bien conscient que les enfants, là, c'était pas comme faire du bicycle dans le parc quartier, là.
Oui, oui.
Tu sais,
oui, oui,
à un moment donné,
oui, oui,
il faut que tu comprennes que tu fais des choix, puis à un moment, puis c'est ça, ça peut arriver, là, que ça te prend peut-être un plan d'urgence, peut-être pour ces gens-là, mais là, on va-tu, là, on est en train de vouloir reconfigurer la côte pour 4 maisons, genre,
mm-hmm,
là.
Mm-hmm,
tu sais, on va-tu, mm-hmm, Daniel, changer toutes les côtes, au exemple, au Bas-Saint-Laurent, puis dans Chaudière-Appalaches, puis en Gaspésie.
Je comprends.
Parce
oui,
que
oui,
peut-être que le véhicule ne se rend pas.
Oui, oui.
Je trouve ça un peu exagéré. Regarde, c'est malheureux, là, je comprends que les parents peuvent s'inquiéter. Et je trouve ça un petit peu exagéré.
Oui, oui. Facteur de risque. Ouais. Laiterie Aura, je ne sais pas sous quel angle tu veux l'aborder. Ça faisait longtemps que c'était dans l'air. Moi, je l'ai dit ce matin, puis je m'en confesse, puis je m'en gêne pas. Là, c'est une nouvelle qu'on avait depuis à peu près un mois, qu'on a voulu... comment je dirais? Ben, par respect, on a étiré ça, puis bon, regarde, c'est la terre de chez nous est arrivée avec ça à un moment donné, puis en tout cas, moi, je sais pas si toi, tu l'as vu ailleurs, là, mais moi, c'est là que je l'ai vu, via la terre de chez nous, puis tiens, bon, là, les médias ont décidé d'en parler, mais honnêtement, moi, j'étais pas trop pressé avec ça, là.
Ben, écoute, si je t'en parle, Daniel, c'était un peu parce que c'est sorti dans les médias, mais en effet, ben, en fin de semaine ou vendredi, là, mais en effet, ça faisait un petit bout de temps, donc on était au courant de la chose, je pense, pour la plupart des gens qui sont soit proches des médias ou même à la limite là qui connaissent un peu là Jean-Mathieu Damour. Écoute, ben moi dans ce dossier-là, j'ai pas entendu aucun de tes commentaires sur le sujet. Où je veux en venir, c'est que ça nous démontre comment c'est. Moi, des fois, il y a des gens qui me disaient, OK, parce que tu sais, des fois, il y a des gens qui vont peut-être pas critiquer, mais vont questionner concernant les sujets qu'on va prendre, Daniel. Ouais. Puis, au fil des années, c'est vrai que la laiterie Aura, moi, je trouvais ça intéressant d'en parler. T'sais? Puis, il y en a qui disaient, me semble, vous en parlez beaucoup. Bon, OK. Évidemment, il y a tout le temps des langues sales aussi, là. Bon, c'est parce que c'est le fils de Jean Damour, ce qui avait rien à voir pantoute, là. Mais ça, les langues sales, il y en aura tout le temps. Mais pourquoi on en parlait tant, Daniel, versus une autre entreprise? Parce que c'était quelque chose de pratiquement irréalisable, ce qu'il est en train de faire.
Ouais, oui.
Tu sais, les producteurs locaux dans ce domaine-là, écoute, on parle de lait, c'est tellement, difficile faire sa place sur le marché. Fait qu'aussitôt que Metro disait hey, on signe un contrat puis on va faire un peu de place au lait au chocolat de la laiterie Aura, ben ça devenait une nouvelle en soi.
C'est
parce
ça.
Que tu disais voyons donc. Mais là, on a eu la preuve que malheureusement, je pense qu'on a eu la preuve que c'est tellement difficile d'œuvrer là, avec les gros dans ce marché-là. Et Jean-Mathieu Damour l'a écrit lui-même en fin de semaine parce qu'il a écrit une lettre là, sur la page Facebook. Il a dit « Je me suis trompé ». Écoute, ouais. Tu peux pas avoir un meilleur mea culpa que ça. Là. « Je me suis trompé, j'avais beaucoup d'ambition, j'ai travaillé 24 heures sur 24 là-dessus, j'ai quasiment laissé ma famille de côté pour que ça marche, on y croyait, tout le monde était à fond ouais. là-dedans, mais je me suis trompé. »
En fait, Louis, moi, je reste persuadé, là, puis je parlerai pas pour les autres, je vais parler pour nous autres, c'est qu'à chaque fois qu'on parlait de laiterie Aura, c'est qu'on avait l'impression, ou on n'avait pas l'impression, on avait la certitude, à toutes les fois qu'on annonçait une bonne nouvelle, c'est qu'il avait défié avec succès les lois de la gravité.
Oui, mais c'est exactement ça. Fait que, puis c'est plate, mais l'avenir aura prouvé ouais. qu'en effet, ouais. il s'était attaqué à trop gros. Puis,
peut-être qu'un jour, il acceptera de se laisser aller dans des confidences d'entrevue, mais il y a certainement un moment là-dedans. Puis Louis, m'a de faire une analogie qui est tout le contraire, en fait. Je parlais avec des gens, il y a deux fins de semaine de ça, qui sont dans le commerce, je dirais même pas dans quel type de commerce, mais c'est simplement que c'est dans l'alimentaire. Et on posait la question à savoir, à quelle place qu'on peut retrouver vos produits? Et ces gens-là nous répondaient, à la ferme seulement. Et pourquoi à la ferme seulement? C'est que dès que tu veux sortir de là, tes coûts augmentent énormément, non seulement tes coûts de distribution, donc d'approvisionnement, mais ce que tu dois supporter si ceux qui reçoivent tes produits, quand ils sont pas vendus et qui deviennent périmés, ils te les retournent, mais ils te les payent pas. Tu comprends? Alors, sans vouloir extrapoler cette conversation-là sur ce qui a causé la perte de laiterie Aura, j'imagine que plus tu grossis, plus tu dois distribuer, plus tu augmentes tes frais, et plus tu augmentes tes frais, plus tu as des produits que tu as été porté, mais si ces produits-là restent invendus pour, je sais pas moi, 5%, 6%, 7%, puis que tu es obligé de les assumer parce que celui qui les a pris en concession te les paie pas s'ils sont pas vendus, ben peut-être que c'est comme ça que le début de la fin arrive.
Ben oui, puis surtout quand on parle de produits laitiers, imagine-toi là que c'est la fin de vie vient vite là, ouais, pour un produit là.
Ouais,
fait que c'est, sinon il peut y avoir des pertes. Et ouais. Puis Daniel, en terminant, je veux mettre la table pour Gilles parce que je le sais que habituellement c'est le genre de sujet qui l'intéresse et également parce que c'est dans la presse plus là. Un CLSC construit au coût de 45 millions de dollars.
CLSC ou CHSLD?
Ouais, je pensais tantôt que je t'ai écrit, c'était CHLD, ouais. CHSLD, mais c'est un CLSC.
OK.
Construit au coût de 45 millions de dollars dans le plus petit village de Nunavik, n'a pas pu recueillir un seul patient depuis sa livraison. En bref, ça fait un an et demi qu'il est ouvert, ça a coûté 45 millions de dollars, puis il est pas ouvert encore.
Aïe. Ben ouais. Non, ben écoute, hier, à Tout le monde en parle, il y avait la ministre des Aînés qui était là et qui mentionnait qu'on allait, parce que là on parle de maison des aînés, là, on allait continuer d'en construire, bien qu'on ne sache pas si on va trouver le personnel pour les opérer. Puis là, ça nous ramène à Rivière-du-Loup, où probablement que quand on va ouvrir, parce que aujourd'hui puis demain, on transfère du monde à la nouvelle maison des aînés, on va peut-être être serré dans le personnel, parce que rappelle-toi qu'au moment où on a fait l'espèce de journée de recrutement, là, on était à 49% seulement du personnel nécessaire.
Ah oui, mais non, mais c'est sûr que là, on parle de pénurie de main-d'œuvre, oui, en effet, là, mais oui. Écoute, non, je te dis, c'est un dossier quand même intéressant là, de l'équipe d'enquête, là. Mais c'est juste pour te dire encore là, je peux pas m'empêcher de pas t'en parler. Quand ils ont branché le CLSC dans le petit village d'Opaluk, l'ensemble du village a été plongé dans le noir.
Eh, monsieur. Ouais. Probablement qu'il va falloir qu'il aille prendre du courant ailleurs. Mais non, c'est Louis, la pénurie de main-d'œuvre, là, ça nous assaille de partout. Et je veux pas utiliser une formule cliché, mais j'ai l'impression que ce n'est que la pointe de l'iceberg pour ce qui nous attend dans les prochaines années. Écoute, Pamela Bérubé, dans sa chronique la semaine passée, nous confiait qu'on en a jusqu'en 2030-2033 avant de penser à un inversement de la tendance, imagine.
Sorti de l'auberge, c'est
ouais.
Sûr.
Hey, merci, Louis.